Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, et une émission, vous vous en doutez, largement consacrée aux grands enjeux auxquels nous devons faire face collectivement, auxquels la République doit faire face, la lutte contre le terrorisme, évidemment, la question de la laïcité qui se pose une nouvelle fois, et bien sûr au sommaire également la lutte contre l'épidémie de Covid, un virus qui continue de se propager. Hier, les députés votaient la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour encore plusieurs mois, un régime d'exception pour faire face à une période qui sera longue et difficile, pour reprendre les mots du ministre de la Santé. Notre invité en direct jusqu'à 13h est l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot, pour intervenir le hashtag Question Paul ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Le virus continue de se propager, Yannick Jadot. Il continue de se propager dans des proportions alarmantes. 46 millions de Français soumis aujourd'hui au couvre-feu, des mesures restrictives qui se multiplient et le pire serait à venir. Est-ce que pour vous, le gouvernement en fait assez ?
On vit une situation dramatique.
Personne, y compris, j'en discutais encore avec le professeur Delfrécy, personne n'imaginait que la seconde vague serait aussi dure et submergerait notre pays, évidemment, mais au-delà, pas mal de pays européens et tous ceux qui subissent cette pandémie.
Pourtant, Delfrécy, dès le début du mois de septembre, pardonnez-moi de vous couper si vite, mais disait déjà qu'il allait falloir prendre des décisions importantes.
Vous avez raison, et tout le monde avait été surpris à ce moment-là que le Premier ministre n'annonce rien.
Exactement.
Vous vous souvenez, à ce moment-là, il y avait cette idée qu'on est toujours en retard, hein, à chaque phase, à chaque annonce, on a l'impression que
aussi
la réunion d'après l'annonce, c'est comment on va faire le prochain tour de vis.
Mais il y avait l'idée aussi que les élus locaux sur le terrain n'étaient pas prêts non plus à prendre des mesures très dramatiques. Est-ce qu'on gère quand on est élu d'un pays ?
Pour ma part, je pense qu'il y a une erreur politique au démarrage, qui est de ne pas avoir construit un conseil de sécurité sanitaire qui associe autour des scientifiques l'ensemble des forces politiques représentées au Parlement, comme les forces vives du pays, que ce soit les syndicats, les associations qui interviennent beaucoup en ce moment en soutien caritatif ou en soutien sanitaire, et évidemment les entreprises. Parce que qu'il y ait une incertitude, c'est une évidence.
Oui.
Ce virus reste très mystérieux. Qu'il faille s'adapter en permanence à une nouvelle situation, c'est une évidence. Mais au regard de ce qui s'est passé sur les masques, l'échec des masques, au regard de ce qui s'est passé sur les tests, l'échec des tests, élargir à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux les décisions à prendre, c'est les rendre plus acceptables et c'est d'une certaine façon améliorer le respect de la règle commune qui est aujourd'hui absolument essentiel.
Mais d'où ma question, le gouvernement en fait-il assez ?
Moi, j'ai pas les éléments, justement, c'est ça toute la difficulté. Moi, je crois que je n'ai aucun problème à respecter toutes les règles qui sont annoncées par le gouvernement. Et j'appelle les Françaises et les Français à ne pas douter quand il y a l'obligation de respecter la règle commune. Alors, on est face à une situation dramatique. Nous commençons, tous les chiffres sur l'occupation des lits de réanimation sont très inquiétants. On s'interroge, chacune, chacun, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de lits ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas isolé les cas qui sont testés ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas renforcé les personnels autour des réanimations ? Pourquoi est-ce qu'on a laissé les gens partir en vacances de Toussaint quand la situation apparaissait déjà catastrophique ? On peut tous avoir des doutes.
Bien sûr.
On peut tous questionner la politique du gouvernement. Mais quand la politique du gouvernement, justement, apparaît aussi erratique, Un, ça veut dire que s'ils sont en retard, il faut d'autant plus respecter la règle quand elle est dictée. Deux, il faut changer le mode de décision et d'association, encore une fois, des forces vives du pays.
Et alors, on va en parler justement.
Pour préciser la question d'Ali, est-ce que vous trouvez, quand on entend M. Castex parler d'un novembre qui sera éprouvant, est-ce que vous trouvez que la dramatisation ou le temps employé, c'est quelque chose de justifié ou c'est quelque chose d'anxiogène? Est-ce que vous considérez que ça peut être déprimant et dépressif à l'échelon de la France? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous constatez également autour de vous un relâchement, notamment chez les jeunes, qui justifierait ce ton, cette dramatisation pour essayer de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a urgence?
Yannick Jadot.
Ce qui est extrêmement difficile, c'est que si on dramatise pas, on a l'impression que on met pas suffisamment le pays sous pression. Et chacune et chacun face à ses responsabilités. Si on dramatise trop, on a l'impression que ça devient inutilement anxiogène. Un, ce pays est dans l'angoisse. Ce pays est traversé au-delà
vous
de la peur.
Vous le constatez autour de vous.
Ce pays est traversé au-delà de la peur de la pandémie, d'une forme de déprime aujourd'hui collective. Qui sont liés à cette pandémie qui dure, dont on voit pas le bout du tunnel.
Mais vous qui êtes élu européen, qui voyagez beaucoup, vous pensez qu'on a
il y a une déprime française
ou pas? Spécifiquement française ou vous ne voyez un peu pas?
Non, partout, tout le monde en a ras-le-bol. Je veux dire, le confinement, on l'a accepté, il fallait le faire, ça a été globalement efficace face à la première vague, mais la perspective pour beaucoup de retourner dans un confinement, c'est retourner maintenant dans quelque chose de connu. Avoir ses enfants H24 à la maison, je pense pas qu'il y ait des parents qui aient envie de nouveau d'avoir à gérer l'éducation.
Ne jamais les voir, c'est pas mieux.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est extrêmement dur.
Pour ma part, il y a un sondage ELAB qui dit malgré tout que plus de la moitié, 53% des Français ont bien vécu, voire très bien vécu le confinement.
Non, mais si vous voulez, moi je vois encore une fois la déprime s'installer. Effectivement, les jeunes qui depuis mars ont leur dit, vous allez, si vous attrapez la maladie, c'est pas grave, mais vous devez vous responsabiliser au nom de la société. C'est très difficile pour des jeunes. Moi, j'ai des enfants qui sont étudiants. Je suis pas sûr qu'ils respectent en permanence les gestes barrières et la distanciation sociale, y compris l'absence.
Et vous les comprenez d'une certaine manière.
Je les comprends. On peut pas sacrifier une génération dont on dit ça va être la précarité professionnelle quand tu vas sortir tes études parce que nous vivons une crise économique et sociale profonde. Il y a les attentats, il y a le dérèglement climatique. Enfin, franchement, l'avenir qu'on leur promet, il n'est pas
et
toujours
noir.
Radieux.
Donc, vous comprenez même les fêtes clandestines, par exemple, et on voyait un reportage très fort d'envoyé spécial jeudi soir.
Je dis à mes enfants en permanence, faites gaffe. Je dis à mes enfants en permanence, portez le masque, pas plus de 6 à la maison, n'allez pas voir votre grand-mère, parce que la personne la plus proche de moi et la plus fragile, n'allez pas voir votre grand-mère dans le contexte. Mais c'est très difficile aussi pour la grand-mère de pas voir ses petits-enfants, et pour les petits-enfants de pas voir leur grand-mère. Donc aujourd'hui, nous avons une responsabilité majeure qui est de respecter l'ensemble des règles édictées, demandées par le gouvernement, en espérant que certains, ce qui apparaît un peu comme des angles morts aujourd'hui, des recommandations soient renforcées. Je pense notamment à la question du télétravail. Il me semble que les instructions du gouvernement vis-à-vis des entreprises et des administrations sur le travail ne sont pas assez ferme. J'entends beaucoup de salariés qui voient à la fois la recommandation de télétravail être diffusée sur les listes internes, parce que c'est une obligation
dans les entreprises,
mais dans les services, en train de dire, et moi je veux que dès lundi tu sois là.
Mais justement, Emmanuel Macron, dès le début du mois de septembre, peut-être même dès la fin du mois d'août, disait, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus.
On n'a pas le choix.
Oui, mais enfin, au final, on a l'impression qu'on n'a pas réussi, là, ou qu'on n'y arrive pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les bonnes mesures pour ça? Et est-ce que les Français sont trop indisciplinés pour y arriver?
Non, je cherche pas à culpabiliser les Français. Je pense que nous vivons tous une situation extrêmement difficile. Moi, j'ai quand même l'impression que à 9h moins le quart, quand vous êtes francilien, tout le monde est en train de se dépêcher de rentrer chez soi pour respecter le couvre-feu. C'est une situation, encore une fois, humainement, socialement, extrêmement compliquée pour protéger les corps biologiques de santé, pour éviter la pandémie. Nous mettons en danger en permanence le corps social. Parce que moins de relations sociales, difficultés économiques, explosion de la pauvreté.
Est-ce que vous diriez qu'on va même jusqu'à mettre en danger notre démocratie ? C'est le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Burguburu, qui était interrogé par le journal Le Monde et qui disait la chose suivante. L'état d'urgence, il parlait de l'état d'urgence sanitaire, distille une forme de poison démocratique. De poison démocratique, on n'en sort jamais comme on y est entré. Il estime que la banalisation de mesures restrictives des libertés n'est pas admissible. Vous reprendriez ces mots ou pas ?
Non.
Non.
Non, il est dans son rôle. Il est dans son rôle et il a raison de se plaindre
de défenseur
que la CNDH
des
ne soit pas interpellée. Il faut savoir que la CNDH est installée auprès du Premier ministre. Ils ne sont jamais interpellés pour savoir quel est le respect démocratique autour de tous ces états d'urgence. Évidemment, faut pas s'installer de manière permanente dans l'état d'urgence. Mais moi, ce que je regrette, c'est que qu'on entend aussi des juristes dire la question du couvre-feu, la question du confinement pourrait se faire dans un cadre légal classique. Et ce que je regrette, c'est que le
si, ce qui est paradoxal, c'est que vous venez d'un camp, Yannick Jadot, qu'on associe assez régulièrement, en tout cas, à la défense des libertés, en tout cas dans l'équilibre liberté-sécurité. Vous avez dans votre idéologie, dans votre logiciel, plutôt tendance à enfoncer le coin sur le côté des libertés.
Mais c'est la santé pour les écologistes. La santé, c'est enfin qu'est-ce qu'on
là,
se qu'est-ce qu'on
contexte,
se souhaite. Je sais pas comme dans quelles conditions on pourra se souhaiter bonne année le 31 décembre. Mais qu'est-ce qu'on se souhaite d'abord? Bonne santé. Le matin, comment ça va? Donc la question de la santé, elle est primordiale. Et donc la question du couvre-feu, la question du confinement me choque pas à partir du moment où c'est une mesure efficace. Mais pour revenir sur la question des ordonnances ou la question de l'état d'urgence sanitaire, si tous les matins on tombait de notre chaise en disant franchement à chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est incroyable ce que c'est efficace. Ils nous prévoient dans 3 mois 1 million de tests. Ils sont déjà en train de former ceux qui vont nous mettre dans le nez des écouvillons et pour être
sûr
que
la situation est catastrophique partout en Europe pour être juste.
Non, ce que je veux dire, c'est que quand on se donne 3 mois pour avoir 1 million de
la
tests,
France n'est plus un cas isolé.
On s'organise. Non, il y a beaucoup de pays où vous avez des tests et vous avez des personnes
et vous avez
pour faire des tests.
Sur le rebond de la Nathalie deuxième vague.
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
On est tous remis à niveau.
On est tous européens. Plus ou moins remis à niveau. L'Allemagne a quand même 2 fois moins de cas de contamination.
Parce qu'elle pense qu'elle a 2 semaines de retard cette fois-ci par rapport à nous.
Et il y a quand même 3 à 4 fois moins de morts en Allemagne. Donc, mais vous avez raison.
Mais il faut être extrêmement modeste.
Il faut être extrêmement modeste. Il faut être extrêmement humble. Je l'ai dit, nous avons une exigence de respect de la règle commune telle qu'elle est dictée à partir du gouvernement, à partir du moment où le conseil scientifique fait des recommandations, que le gouvernement donne un certain nombre de règles. J'appelle les Françaises et les Français à les respecter strictement.
Françoise Fressoze.
Vous dites, bon, on n'est pas très inquiet pour les libertés, ça se passe plutôt bien, mais vous êtes quand même élu de l'opposition et vous êtes quand même soumis depuis plusieurs mois à une situation assez exceptionnelle. Comment est-ce que vous vivez et comment vous vous réinventez dans ce contexte-là pour quand même faire passer vos messages ? Comment vous vivez en tant qu'élu politique ces restrictions à la fois de meetings, de réunions, d'interpellations ?
C'est très dur. Yannick Jadot. C'est extrêmement dur pour l'ensemble de la société. On parlait des jeunes tout à l'heure, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, le fait d'être bloqué dans ses relations sociales, enfin, y compris toutes les enquêtes internationales sur qu'est-ce qui nous fait apprécier la vie. C'est pas d'acheter le dernier iPhone ou le dernier je sais pas quoi Huawei. Moi je suis pour les virer d'Europe, donc je recommanderais pas d'acheter Huawei. Mais donc c'est le lien social. C'est comment on est en famille, c'est comment on est entre amis. Et comment on est des relations sociales, d'épanouissement dans son travail. C'est tout ça qui fait la vie. Donc on est tous absolument percutés par cette pandémie à laquelle on ne s'attendait pas et vis-à-vis de laquelle il nous faut en permanence, en permanence nous adapter.
Mais la vous question, répondez pas à Françoise, comment faire de la politique dans cette situation?
Écoutez, je suis chez vous. Je suis chez vous. Moi, je suis député européen. Donc, je suis pas élu d'opposition en France. Mmh. Je suis député européen au groupe vert régionaliste. Ça nous a pas empêché la semaine dernière de nous battre bec et ongles sur la révision de politique agricole commune, parce que derrière la pandémie, il y a des secteurs économiques qui doivent évoluer, y compris du point de vue social, pour pas perdre plus de paysans. J'ai présenté la semaine dernière, mais c'était sur un mode visio, j'ai fait la conférence de presse pour présenter mon rapport sur la taxe carbone, puisque je porte pour le Parlement européen la taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui est un enjeu extraordinaire, mais
qui
est en lien avec la pandémie,
à l'agenda de notre
de résilience, de souveraineté et de décarbonation de l'économie et de sauvetage d'emplois et de relocalisation. Tous ces sujets-là, on continue à les travailler. Heureusement que la vie s'est pas arrêtée.
Oui,
mais pour faire de la politique, c'est moins simple.
Mais cette crise, ça vous fait réinventer votre logiciel politique ou pas? Parce que derrière la question de Françoise, il y avait ça aussi. Est-ce que finalement, ça vous interroge sur la manière dont vous faites de la politique et sur les sujets qu'il faut aborder, sur les nouvelles propositions qu'il faut faire?
Écoutez, les sujets notamment de résilience, souveraineté qu'on a toujours portés sont évidemment au cœur de l'agenda. Mais ce qu'on voit aussi pendant cette crise, vous savez, dans le logiciel écologiste, il y a cette idée que à la fois il faut se réconcilier avec la communauté humaine, et la mondialisation, vous le savez, est perçue comme quelque chose aujourd'hui d'extrêmement prédateur. Donc s'attaquer aux défis de la santé, du climat, de la biodiversité, de la solidarité, c'est se réconcilier avec le global. Vous savez, et je pense que c'est une des raisons qui nous ont fait réussir les élections municipales, les déplacements, l'accès à des services publics, l'alimentation, le logement, c'est se retrouver confiance dans son lieu de vie et se réconcilier avec son lieu de vie. Mais il y a un enjeu essentiel dans la société aujourd'hui. C'est réconcilier le particulier avec ce qui fait commun. C'est l'intérêt privé et l'intérêt général. Et ce qu'on voit dans cette épidémie, comme dans l'écologie, c'est que nos gestes individuels sont une parcelle essentielle de notre responsabilité collective et de notre vivre ensemble. De la même façon que quand vous mettez un masque, vous protégez la santé publique, vous vous protégez, mais c'est la santé publique, et bien de la même façon que quand vous jetez pas votre mégot sur le trottoir, ou que vous triez vos déchets, ou que vous économisez l'énergie, c'est bien pour vous, c'est bien pour le commun.
Autre enjeu, évidemment, majeur auquel doit faire face la République, Nathalie Saint-Cricq.
Après l'attentat épouvantable et la décapitation de Samuel Paty, certains ont émis l'idée que les démocraties étaient un peu démunies face à ce phénomène, et que la France n'avait rien vu venir, ou avait été un peu béate ou un peu innocente. Est-ce que vous partagez ce diagnostic?
Non. On ne peut pas dire que la France est béate et innocente et naïve en matière de terrorisme. Les attentats terroristes nous ont tellement coûté. On fait tellement de victimes dans notre pays que notre pays ne peut pas être innocent, et l'État n'est pas innocent, naïf ou béat. Ce qui frappe terriblement avec cet attentat, c'est évidemment l'abomination de l'attentat. Une décapitation, c'est abominable. Ce qui frappe l'ensemble des Françaises et des Français, c'est que ce soit un enseignant, un professeur, qui enseignait la liberté d'expression et la construction d'un esprit critique. C'est pas simplement la liberté d'expression, c'est la construction d'un esprit critique, y compris vis-à-vis des religions. Ce qui a marqué les Françaises et les Français, c'est qu'on s'attaque à l'école, qui est un sanctuaire, le sanctuaire de la démocratie et de la laïcité. Mais ce qui a, je crois aussi, marqué les Françaises et les Français, c'est qu'on a l'impression que dans cet attentat, il y a eu une série de failles qui n'ont pas permis de prévenir l'attentat et de protéger Samuel Paty. On le voit peut-être, et les enquêtes le diront, dans l'ensemble de l'éducation nationale, entre un enseignant qui, pour le coup, lui, maîtrisait son sujet d'éducation morale et civique, puisque c'est ce secours-là qu'il était en train de faire. Mais on a l'impression que parfois, dans la hiérarchie, dans les conseillers laïcité, dans l'accompagnement...
C'est le fameux pas de vague qui exaspère Jean-Michel Blanquer.
L'accompagnement de cet enseignant, on verra. mais on n'a pas l'impression que ça a été aussi solide qu'on le voudrait.
D'où ma question, est-ce que la France n'a pas été aveugle et béate? C'est-à-dire et que puis, si on se rend compte de ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça fait 15 ans que ça se passe ainsi et qu'on préfère ne pas le savoir.
Et il y a eu des alertes sur les réseaux sociaux, auprès de Pharos, la plateforme qui collecte ces alertes. Il y a eu quand même des types fichiers S reconnus comme des militants islamistes par l'ensemble de nos systèmes qui ont quand même été portés plainte contre un enseignant.
Pour vous ça comprendre, n'a pas produit... l'institution dire, a failli.
Il y a globalement.
Yannick Jadot, répondez clairement. Est-ce que pour vous l'institution a failli?
À partir du moment où un professeur est décapité, l'institution et l'ensemble des dispositifs qui sont censés être complets, ça a failli. Et d'où? Et moi, je soutiens le renforcement de Pharos. Le fait que nous le savons aujourd'hui, j'entends, et il faut le faire. Si dans des mosquées il y a des imams qui prêchent en rupture avec les valeurs de la République, il faut être intransigeant, d'une fermeté très très forte.
Donc la stratégie du harcèlement du gouvernement, c'est la bonne stratégie, il faut y aller à fond là.
Mais on sait que c'est aujourd'hui le combat, il est sur les réseaux sociaux, là où se construit la radicalisation.
Alors justement, question très précise, est-ce qu'il faut rompre l'anonymat sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut faire une législation? On sait que la précédente, il y a eu une tentative qui a été censurée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé, il faut en finir avec l'anonymat?
C'est une fausse bonne idée. Vous savez, si, madame, là, pendant l'émission, vous tweetez « je prépare un attentat », dans 2 heures, il y a les forces de police qui sont là pour vous neutraliser. Ce que je veux dire, c'est que l'anonymat n'existe pas, en réalité, sur les réseaux. La question qui doit se poser, c'est ce qu'on appelle le pseudonymat. Quand vous émettez un signal à partir de votre téléphone, de votre ordinateur, on vous retrouve. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une dizaine d'arrestations, y compris rapidement, quasiment de condamnations, des personnes qui sont intervenues pour valoriser l'attentat. Donc, si on veut, on retrouve les personnes. Le sujet, c'est le pseudonymat. Est-ce qu'on accepte que sur les réseaux,
le vrai sujet, c'est celui de la haine sur Internet,
J'essaye de répondre à Françoise Fesos qui me pose une question précise. Donc, c'est la question du pseudonymat. Il y a un certain nombre de professions où conserver un pseudonyme est une nécessité. Quand vous êtes policier, potentiellement quand vous êtes enseignant, juge, ou quand vous êtes dans votre droit d'alerte sur ce qui se passe dans votre entreprise ou dans votre administration, vaut mieux avoir un pseudonyme. Ce qu'il faut, et pour le coup, le projet du commissaire européen breton sur sa loi sur les services numériques va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, un, qu'il y ait une représentation légale en Europe des plateformes. Aujourd'hui, si vous voulez poursuivre Twitter, vous êtes obligé de vous renvoyer à un juge américain qui soit vous répond pas, soit
finalement
dit le premier amendement. Mais il faut une représentation légale de ces plateformes en Europe pour qu'on puisse, un, imposer évidemment une obligation de résultat sur tout ce qui relève évidemment de la pédopornographie, tout ce qui relève de la haine, du racisme et évidemment du terrorisme. Deux, il faut pouvoir les sanctionner très durement si elles ne respectent pas la loi. Mais il faut le faire au niveau européen. Pour pouvoir taper les plateformes comme elles le méritent, il faut le faire au niveau européen.
Mais je vois pas le rapport entre une vidéo postée par un père, en l'occurrence sur Facebook, et qui n'avait absolument rien d'anonyme, la prédication d'un autoproclamé prédicateur sur Internet face caméra qui ne se cache pas, et à partir de là, démarrent des discours de haine qui se répondent, qui s'amplifient, qui se multiplient sur Internet.
Un autre élément sur lequel il faut agir, c'est la question des algorithmes des plateformes. Aujourd'hui, on sait, parce qu'ils gagnent de l'argent en collant de la publicité aux discours les plus haineux, aux vidéos les plus trash, les plus abominables. Donc vous avez les plateformes qui gagnent de l'argent avec la haine, avec l'horreur sur les réseaux sociaux. Donc ça, il faut y compris les combattre en définissant un nouveau statut pour les plateformes. Ce ne sont plus que des hébergeurs, ce sont aussi pour partie des éditeurs. C'est ce qu'on appelle le statut intermédiaire pour justement imposer leurs responsabilités. Mais là où, Monsieur Badou, vous avez raison, il y a un enjeu extraordinaire dans le moment. C'est le réarmement idéologique sur les réseaux. Nous avons un problème sur les réseaux. 95% des messages autour de l'islam sur les réseaux relèvent de l'islamisme radical. 95% des messages relèvent de l'islamisme radical.
Et donc, on fait quoi, là ?
Donc, il faut absolument soutenir toutes les associations, tous les intellectuels qui, évidemment, comme c'est la majorité des musulmans, sont modérés. Mmh. Il faut porter le combat sur les réseaux sociaux, sur ce qu'est l'islam aujourd'hui. Laisser les salafistes tenir les réseaux sociaux, c'est une faute politique lourde. C'est comme
oui,
ça qu'on combattra.
Oui, mais qui l'organise, ça ? C'est le gouvernement français qui va dire aux musulmans « exprimez-vous sur les réseaux
Alors,
sociaux ».
Alors,
c'est compliqué, hein ?
Oui, c'est compliqué. Mais, l'islam n'est pas organisé comme la religion catholique, par exemple, avec une verticalité, une hiérarchie, tout ça.
Il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite.
Il n'en demeure pas moins. Dans la société française, il y a eu un débat sur la religion catholique. Vous avez des organisations, les jeunesses agricoles chrétiennes, les jeunesses ouvrières chrétiennes, la CFDT et toute une série d'associations qui ont porté le débat en interne sur ce que devait être la religion catholique dans une république laïque. Il y a eu ce débat-là. Eh ben, il faut promouvoir tous les espaces, tous les porteurs de messages et les porteuses de messages sur les réseaux sociaux pour casser cette idée que le seul message sur les réseaux sociaux autour de l'islam, il est salafiste.
Mais ça prend beaucoup de temps,
sur la laïcité.
C'est structurel. C'est structurel. Mais vous savez, on a, si je peux me permettre, juste...
Et je veux qu'on aborde la question de la laïcité, parce que tout ne se résume pas à la gestion des réseaux sociaux, où il y a une grande impuissance du politique face aux GAFA. On se demande d'ailleurs si ce qu'on propose aujourd'hui est tout simplement possible.
Ah oui, alors au niveau européen, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut soutenir la démarche du commissaire Breton, et il faut soutenir l'idée que c'est à travers l'Europe aussi qu'on va pouvoir réguler les plateformes. Mais sûr, là où vous avez raison, c'est que notre première priorité aujourd'hui, ça doit être de combattre l'islamisme radical, sans trembler, avec intransigeance, avec fermeté, sur les financements et les soutiens internationaux, sur la formation des imams, sur le statut des associations, sur tous ces sujets-là, et évidemment sur les réseaux, il nous faut être intransigeant et équipé juridiquement. Deuxième chose, on ne réussira à combattre les ennemis de la République que si on tient la promesse républicaine. Si on laisse la ghettoisation dans les quartiers, si on laisse les discriminations économiques, sociales, territoriales, ethniques, religieuses continuer à s'installer, à s'empirer, à ce moment-là, tous les associations islamistes progressent, pullulent, gangrènent ces quartiers. Donc si on ne tient pas la promesse républicaine, on n'arrivera pas à combattre les ennemis de la République.
Nathalie, c'est
ça. Justement, vous dites qu'il ne faut pas avoir la main qui tremble. Est-ce que quand Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, François Hollande dénoncent une certaine forme de complaisance avec ce qui est très à la mode aujourd'hui, à savoir les dérives communautaristes des islamo-gauchistes, est-ce que vous êtes sûr que toutes vos troupes, les troupes écolos, sont derrière vous et partagent ce même message de dureté et de fermeté ?
Yannick Jadot.
Les écologistes sont comme l'ensemble des Français. Ils sont laïcs. Vous savez, moi, mes deux parents étaient instituteurs. Mon père était, formateur à l'école normale. Et d'ailleurs, à l'époque, la France n'avait pas du retard comme elle a aujourd'hui sur la formation des enseignants. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on laisse les enseignants aller au combat sur ces sujets-là, à peine équipés, à peine équipés. Donc, les écologistes sont laïcs. Et aujourd'hui, ils doivent être sans, encore une fois, sans aucun accommodement, sans aucune complaisance.
Donc les gauches sont réconciliées. La fameuse
irréconciliables. Non, c'est pas, le sujet, c'est pas les gauches. Là, le sujet, c'est le combat pour la défense des libertés, c'est le combat pour la République. Donc là, le sujet aujourd'hui, c'est pas les gauches. Que la droite, et y compris ses représentants qui étaient hier dans le gouvernement Sarkozy ou dans l'équipe Sarkozy, qui aujourd'hui sont avec Emmanuel Macron. Je pense à Bruno Le Maire, je pense à au Premier ministre Castex, je pense à Monsieur Darmanin. C'est quand même extraordinaire. Ils ont gouverné avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a supprimé 13 000 postes de policiers, de gendarmes. Il a déstabilisé tous les acteurs du terrain sur leur renseignement. Il a précarisé les services de police. Il a mené une guerre en Libye qui a armé tous les terroristes du Sahel. Il a, vous souvenez-vous, il était tellement content quand le Qatar investissait 50 millions d'euros dans les quartiers. Donc, pas de leçons. Pas de leçon
donc
de cette personne qui nous ont désarmés,
au ministère de l'Intérieur,
qui nous ont désarmés sur la question du terrorisme. La seule chose qu'attendent les Françaises et les Français, c'est pas les discours de Blanquer qui dit que l'université bientôt c'est le berceau du terrorisme islamiste. C'est pas les invectives de Gérald Darmanin ou du Premier ministre. Ce qu'ils attendent les Français, c'est l'unité, le rassemblement et la fermeté autour de deux choses. Je l'ai dit, l'islamisme radical. La promesse républicaine, avec deux choses qu'il faut absolument éviter, les complaisances, les arrangements, et deuxième chose, l'agitation. Et là, du côté du gouvernement, il y a trop d'agitation au moment où nous devrions être tous seuls.
C'est quoi
tous...
l'agitation? Vous pouvez préciser juste.
Quand vous voyez, par exemple, le ministre Darmanin, il a raison sur une partie du renforcement et notre détermination à combattre l'islamisme radical. Et d'un seul coup, il dérive sur le halal dans les magasins. Ça veut dire qu'il passe la frontière qu'il ne fallait absolument pas traverser. C'est celle de la lutte contre l'islamisme radical à d'un seul coup la stigmatisation des musulmans. Pourquoi il faut lutter contre l'islamisme radical? C'est aussi pour protéger les Françaises et les Français de confession musulmane ou de culture musulmane. Ils en ont marre de Zemmour, ils en ont marre des islamismes radicaux. Eh ben, tenons la promesse républicaine, luttons avec fermeté contre l'islamisme radical, évitons les agitations et maintenant mettons un terme définitif à toutes les complaisances qu'il y a pu avoir dans les mairies avec des associations ou ce gouvernement, comme les précédents, avec l'Arabie Saoudite. Je réécoutais, si vous permettez, le juge Trévidic.
Oui, ancien juge antiterroriste.
L'ancien juge antiterroriste qui disait comment on peut prétendre lutter contre l'islamisme radical et être aussi complaisant vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, parce qu'elle nous achète des armes, mais qu'elle exporte, nous le savons, une vision totalitaire et mortifère de la religion.
Françoise Fressoze.
Mais quand vous dites combat implacable contre l'islamisme radical, en début de semaine, le gouvernement annonce la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France. Vendredi, Conseil de défense, on apprend que le collectif n'est pas encore dissous, parce que visiblement, il manque des bases juridiques. Donc, jusqu'à quel point on peut remettre en cause, faut-il remettre en cause notre état de droit pour lutter contre l'islamisme radical?
Yannick
Est-ce qu'il
Jadot.
Faut prendre des mesures spécifiques et lesquelles?
Si il était avéré que le CCIF avait participé d'une quelconque manière à ce climat de menace contre Samuel Paty ou de complaisance vis-à-vis du terrorisme, l'État aurait parfaitement raison de fermer cette association.
Il aurait peut-être raison, mais peut-être qu'il n'a pas la base juridique.
Oui, mais enfin,
est-ce qu'à chaque attentat, il faut renforcer...
Non, mais attendez, à un moment donné, s'il n'y a pas d'éléments pour fermer une mosquée, s'il n'y a pas d'éléments pour fermer une association, vous ne pouvez pas inventer un droit qui invente des éléments à charge.
Mais non, mais attendez, on sait très bien. Attendez, Jean-Michel Blanquer explique que quelquefois, pour fermer des écoles hors contrat, ils sont obligés de trouver une histoire de prise de courant qui n'est pas aux normes pour pouvoir la fermer parce qu'on n'est pas outillé. Vous savez très bien, vous avez parlé de l'expulsion tout à l'heure d'un certain nombre de prêcheurs. Encore pour les expulser, faut-il qu'ils aient deux nationalités. Et vous savez très bien que le pays d'origine ne délivre pas des laissez-passer consulaires. C'est-à-dire, parce qu'ils ne veulent pas les récupérer.
Vous avez raison.
Donc c'est plus compliqué que ça. Donc faut-il changer le droit pour reprendre la question de Françoise?
Si à un moment donné, il faut adapter le droit, et je suis comme vous, je n'ai pas le texte du projet de loi sur les séparatismes, s'il faut adapter le droit pour être efficace, je n'ai aucune difficulté avec ça. Aucune difficulté avec ça. Je l'ai dit, nous avons des ennemis de la République, Il y en a un, c'est l'islamisme radical. Il faut le combattre.
Est-ce que
mais il
ne
faut pas simplement le combattre, je l'ai dit, de manière visible, au sens dans le court terme. Il faut se donner, il faut nous donner les moyens d'un réarmement idéologique pour le combattre sur sa vision de la religion. Il nous faut nous donner les moyens d'un réarmement social des quartiers. C'est quand même ce président de la République qui a mis de côté le plan Borloo qui avait été fait avec les associations, avec les élus, pour apporter une réponse sociale républicaine aux quartiers. C'est ce président de la République qui a poursuivi la suppression des emplois aidés. Il y avait quand même 300 000 emplois aidés dans des associations laïques de foot, caritatives et machin. Quand le terrain est abandonné par la République, ils font toujours la même chose, les islamistes.
Et il y a aussi...
Ils le font toujours la même chose. C'est, ils commencent par le social pour organiser un écosystème idéologique contraignant totalitaire.
Est-ce que vous auriez pu signer la tribune qui est publiée aujourd'hui dans le journal du dimanche, 48 personnalités qui en appellent à une laïcité pleine et entière, Elisabeth Badinter, Richard Malka, Caroline Fourest, Marcel Gauchet, pour ne citer que ceux-là, et qui parlent en l'occurrence d'institutions, et on imagine qu'ils pensent à l'Observatoire de la laïcité en appelant le président de la République. Non, mais c'est ce qu'on comprend en lisant le texte, pour que le président de la République s'empare du sujet et remplace ceux qui ont fait leur temps, je cite le papier, et dont l'esprit, les objectifs, l'organisation, les travaux ne correspondent plus aux ambitions nouvelles, ceux-là qui se sont écartés de la défense de la laïcité, allant jusqu'à prendre constamment le parti de ses adversaires, de tribunes en préface, de critiques des laïcs les plus respectés en prise de position les plus ambiguës.
Toutes nos institutions, et ça devrait être le cas de tous les responsables politiques, et y compris parce que c'est comme ça que la société se mobilisera. On doit être ferme sur le combat contre l'islamisme radical, les atteintes à la laïcité et la promesse républicaine. À partir du moment où les institutions de la République répondent à ce mandat-là, moi, j'ai pas
l'Observatoire de laïcité, par exemple, répond.
La réalité,
c'est que... C'est l'objectif.
Là, si vous voulez, moi, j'ai pas aujourd'hui les éléments pour savoir si l'Observatoire de la laïcité a, à un moment donné, été en rupture avec ce mandat-là essentiel ou pas. Donc, moi, je n'ai pas les éléments pour disqualifier l'Observatoire sur la laïcité. Ce qui est très... Il faut faire attention en ce moment, parce que la période... est à la disqualification de l'autre. Elle est à l'invective. Vous vous rendez compte que ce grand parti de la résistance, qui est le Parti communiste, a vu son siège tagué en disant « collabo ». Enfin, je veux dire, on est de ce point de vue-là...
Le siège du PC...
Et je le rappelle, les Françaises et les Français nous jugeront de manière extrêmement sévère si, dans ce moment, face à ces menaces, le jeu est à l'invective, le jeu est à la disqualification de l'autre, et non pas au rassemblement, à l'unité, autour d'un projet extrêmement intransigeant, ferme et social.
Oui, mais Yannick Jadot, puis on passera votre portrait. Vous appelez au rassemblement, à l'œcuménisme, mais en fait, le débat, il est... au sein des laïcs, vous avez les laïcs offensifs et les autres, et puis vous avez un débat au sein de la gauche très fort, où on voit François Hollande, Bernard Cazeneuve, attaquer très fortement les insoumis sur le thème « Vous avez été des ennemis de la République parce que vous n'avez pas adhéré au fond à la laïcité telle qu'on la conçoit ». Donc on est là sur une querelle à gauche extrêmement forte et violente.
Elle est dure, mais pour ma part, si on n'est pas capable... après ce qui s'est passé à Conflans, si on n'est pas capable aujourd'hui d'être toutes et tous très clairs sur la défense de la laïcité...
De la laïcité pleine et entière, vous reprenez les mots.
Mais je ne sais pas ce que c'est la laïcité. Moi, je ne veux pas la qualifier. Il y a la loi 1905.
Il n'y a pas besoin d'adjectif.
Il y a la loi 1905 qui la qualifie. J'entends même des propositions qui est de dire il faut faire un référendum sur la Constitution. Mmh. Elle est dans l'article 1er. Mmh. De la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, sociale et laïque. Donc, le sujet, ce c'est d'appliquer la loi. On a quasiment, on se bat même, mes collègues écologistes, quand ils sont allés voir Darmanin, c'est eux-mêmes qui ont rappelé qu'on ne peut pas avoir de réunion politique dans des lieux religieux. et que c'était déjà dans la loi de 1905. Vous voyez, le sujet, c'est pas de rajouter des lois pour rajouter des lois. C'est pas d'invectiver les autres pour, y compris, masquer son propre bilan. Le sujet, après cet attentat, c'est de rassembler les Français autour de la République, autour de l'école. Et il y a beaucoup à faire. Enfin, juste si on peut dire un mot sur l'école, quand même.
Bien sûr.
Si vous me permettez, quand on parle aux enseignants, ils ont la trouille de la rentrée la semaine prochaine, pour partie.
Oui, mais on les protège comment? Enfin, on fait
quoi? Non, c'est pas la trouille forcément de l'attentat. C'est comment les élèves auront réagi à ce sujet-là. Comment ils vont revenir? Comment ils vont revenir de leur discussion en famille? Comment ils vont revenir de leur discussion entre copains? Et moi, je regrette que dans le plan de rentrée du ministre Blanquer, il n'y ait pas aussi une réunion avec les parents d'élèves, où la directrice, le directeur principal, proviseur, s'exprime fermement auprès des parents d'élèves sur ce qu'est l'enseignement,
sur ce qu'est l'école,
sur ce qu'est l'école, parce que tout le monde redécouvre. Et c'est très bien que l'école, c'est là où on construit les citoyens libres. J'ai écouté, comme vous, le discours du président
vous
de la République
apprécié.
Et de tout le monde.
Vous l'avez apprécié,
mais
le
bien
discours.
Sûr, c'est un discours émouvant, c'est un discours fort, c'est un discours qui défend l'école. Moi, j'avais eu la chance, pendant l'été, de relire La République de Jaurès. Magnifique, c'est ce texte-là qu'il faut étudier en classe. Magnifique discours de 1910 sur l'école. Mais attention, ça fait combien de temps qu'on a sacrifié la formation des enseignants? On est un des pays européens qui forme le moins ses enseignants, qui les rémunère le moins. Est-ce qu'on peut imaginer des enseignants qui sont à peine formés, qui sont balancés dans les quartiers les plus difficiles, face au public les plus difficiles, sans même la construction intellectuelle de ces sujets-là, au-delà de l'outil pédagogique, et penser que tout va bien se passer? Eh ben non. Eh ben, faut réinvestir.
Il faut quand même rappeler, que Samuel Paty, lui, faisait ce travail-là, et il le faisait de manière construite et consciencieuse.
Il n'avait pas 23 ans.
Justement.
Il n'avait pas 23 ans.
Une toute 47. Une toute petite question.
Nathalie Sacré.
Puisque vous parlez de la rentrée du 2 novembre, Manuel Valls, mais il n'y a pas que lui, a appelé à ce qu'on republie les caricature, que tout le monde ait publié, tous les journaux, toute la presse, de manière à immuniser tout le monde et que tout le monde soit responsable. Ça a été in fine fait par L'Express en page intérieure, Marianne en page intérieure, et à la une, un seul journal de PQR, La Nouvelle République. Est-ce que vous trouvez que les gens ont eu peur, ou que c'était de la provocation au nom de « il ne faut pas mettre d'huile sur le feu » Juste une question.
J'ai défendu toujours la liberté de Charlie Hebdo de publier, évidemment, et le droit au blasphème. Il ne faut pas non plus que l'ensemble de l'enseignement moral et civique
soit limité
sur la question de la laïcité, ce soit juste
c'était
les caricatures
dans les 24
de Charlie.
Heures qui ont suivi,
à un moment donné, il faut. Je parlais du texte de Jaurès. Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup d'autres. Il y a des choses aussi qui doivent structurer l'esprit critique de nos enfants. Et puis, je le rappelais, moi, mon père était à l'école normale, il était formateur à l'école normale. À l'époque, il y avait le temps pour que les enseignants se construisent sur ces sujets-là, qu'ils soient accompagnés dans l'école. Nicolas Sarkozy, une fois encore, il a supprimé les IUFM. Ça a été quand même une catastrophe pour la formation de nos enseignants.
Les instituts universitaires de formation des maîtres. Mais il faut dire que personne n'a jamais été préparé à affronter ce qui se passe aujourd'hui dans certains établissements.
Non, mais raison de plus pour qu'on se donne le moyen, en formation continue, si c'est pas la formation initiale, pour que nos enseignants soient équipés pour faire face à ces problèmes-là. Parce que j'en entends aussi beaucoup qui disent « Waouh, c'est compliqué, j'ai quand même tendance à contourner une partie du cours parce que je suis pas très à l'aise ». Eh bien ça, c'est pas... Il faut rendre nos enseignants forts sur ces sujets-là aussi.
L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info.
Question politique sur France Inter.
Votre portrait, Yannick Jadot, il est signé Karine Bécard.
Vous devriez apparaître, Yannick Jadot, comme le leader naturel des écologistes, parce que vous êtes l'un des membres fondateurs d'Europe Écologie Les Verts, parce que grâce à vous, les écolos sont arrivés troisième aux dernières européennes, vous avez un discours politique, vous êtes un petit peu médiatique, et pourtant, à l'intérieur de votre propre parti, rien n'est encore gagné, pas sûr que vous réussissiez à vous imposer. Pourquoi ? Reprenons toute l'histoire à la base. Au départ, vous êtes un militant Yannick Jadot, un militant associatif, un militant de terrain, ce qui n'est pas pour déplaire, au contraire, au mouvement écolo. Jeune, vous avez une période altermondialiste, et puis vous entrez dans une très grosse ONG, Greenpeace France, vous en dirigez les campagnes, des campagnes souvent radicales. Pendant 6 ans, vous bossez sur le fond, vous apprenez, et vous connaissez votre dossier.
En période de canicule, on n'arrive plus à refroidir les centrales, on rejette dans les rivières de l'eau très très chaude, qui a un vrai problème environnemental, et surtout, ça devient un problème de sécurité des centrales nucléaires.
Janvier 2007, vous avez 39 ans, et vous n'êtes pas encore...
Ça fait longtemps, on a l'impression que ça fait très longtemps quand même. Hein.
Et vous n'êtes pas encore pleinement éloquent. Ensuite, place à la politique. Vous êtes repéré par Daniel Cohn-Bendit. Devenu député européen sous François Hollande, vous vous seriez bien vu devenir ministre. Et puis, à 49 ans, Yannick Jadot, en 2017, vous déjouez tous les pronostics. Face à l'indéboulonnable figure du parti, Cécile Duflot, c'est vous qui l'emportez à la primaire des Verts. Pour les écolos, c'est évident, vous apparaissez moins ambitieux, moins politique. Vous êtes issu de la société civile, donc plus sympathique. Seulement... tout a changé depuis les récentes élections européennes. Vous étiez tête de liste, vous terminez troisième. Les Français vous ont porté bien plus haut que ce qui était annoncé.
Ils veulent que l'écologie aussi soit au cœur de notre vie, au cœur du jeu politique. Et ce message, comme je l'ai dit, a été lancé dans toute l'Europe.
À partir de ce soir-là, Yannick Jadot, du 26 mai 2019... j'ai envie de dire tout bascule. Dans Paris Match, vous dévoilez en réalité votre appétit présidentiel. Du coup, pour les Verts, vous n'êtes évidemment plus le même. Ajoutez à cela depuis quelques déclarations, quelques propositions qui ont fait de vous presque un centriste, pour ne pas dire un quasi-macroniste. Votre parti, qui rêve maintenant d'autonomie, ne vous suit plus, même quand vous tendez la main à la rentrée à Blois à vos anciens amis socialistes.
Moi, la gauche, c'est ma famille. Moi, je veux pas la fin du Parti Socialiste, c'est débile. Le Parti Socialiste a toute son histoire, il a toutes ses identités que vous avez rassemblées. Pourquoi je voudrais la fin du Parti Socialiste ?
Alors obtiendrez-vous, Yannick Jadot, à 53 ans, l'investiture d'Europe Écologie Les Verts pour disputer la prochaine présidentielle ? Y croyez-vous vraiment ? Parce que plus vous tenterez d'élargir à gauche et au centre votre électorat, ce qui pour gagner à la fin est assez nécessaire, moins vous décrocherez, et vous le savez, le soutien des Verts.
Réaction Yannick Jadot ?
C'est difficile parce que c'est vrai que je pense qu'il y a, il y a un chemin pour cette écologie sociale que je porte avec beaucoup pour gagner en 2022. Et quand on voit le dérèglement climatique, quand on voit l'explosion de la pauvreté, quand on voit l'affaissement politique et la déprime de notre pays, il nous faut un projet d'enthousiasme, il nous faut un projet d'espoir, il nous faut un projet qui relocalise l'économie, c'est ce que je fais à travers la taxe carbone au Parlement européen. Il nous faut un projet qui nous permet de retrouver le contrôle de nos vies. Et d'une. Donc je suis convaincu que nous pouvons gagner, et je suis convaincu que c'est une ardente nécessité. On ne peut pas laisser le président Macron, mais...
Et vous êtes convaincu d'incarner cette candidature verte ou pas ?
On est en octobre 2020, on a parlé de l'attentat... il y a la Covid qui continue à nous percuter, des morts liées à cette maladie, il y a les inégalités qui se développent, il y a un sentiment profond de déprime qui s'empare de notre pays, alors que il y a des choses extraordinaires, des énergies vitales dans les quartiers, dans les centres de recherche, dans les entreprises. J'en visite en permanence. C'est extraordinaire l'appétit, l'aspiration populaire à transformer la société. Oui. Mais débat de la présidentielle 2022 maintenant, j'ai du mal.
Alors, il y a des questions quand même malgré tout ce qui nous reste.
Je pense que les Français s'en foutent, en fait. En
vrai. Ils s'en foutent peut-être, mais ils s'en foutent peut-être
pas. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je pense que ce n'est vraiment pas la préoccupation des Français.
Peut-être pas, mais en l'occurrence, comment adopter des mesures ambitieuses en faveur de l'environnement sans nuire au pouvoir d'achat des plus modestes, je ne pense pas que ce soit une question qui soit étrangère à beaucoup d'esprits.
On y travaille dès aujourd'hui. Rapidement. On y travaille dans nos mairies, on y travaille au Parlement européen, et c'est effectivement une des réformes que nous portons avec ambition. J'étais dans un
on
CFA.
On vous a entendu dans l'archive.
J'étais dans un CFA, donc un centre de formation des apprentis, il y a quelques jours, avec les professionnels du bâtiment. C'est extraordinaire. de voir ces jeunes aujourd'hui dans un cadre choisir un métier manuel. Ils le font beaucoup par plaisir, par volonté de s'épanouir dans ces métiers-là. Et notre responsabilité politique, y compris en tant qu'écologiste, c'est d'outiller tous ces jeunes pour qu'ils aient un bel avenir et une belle vie.
Alors, pour qu'ils aient un bel avenir, vous avez vu les révélations autour de Lactalis, du géant français du lait notamment, qui polluerait des rivières impunément, comme l'ont montré le site Disclose et Envoyé Spécial, des accusations qui concordent. 38 usines sur les 60 recensées dans le cadre de l'enquête ont été ou sont toujours en violation du code de l'environnement. Que faire ?
Il faut intervenir beaucoup plus sérieusement auprès de Lactalis. Le problème, c'est que vous vous souvenez de Stéphane Le Foll, qui au moment de la crise du lait, au moment de la violence, au moment de la contamination du lait infantile, disait « Moi, j'ai un problème, j'ai pas le téléphone du patron de Lactalis ». C'est-à-dire qu'on a laissé s'installer dans l'agriculture française une entreprise familiale qui ne rendait compte à personne, ni aux éleveurs laitiers, ni à l'autorité de l'État, qui se permet effectivement de mal payer les éleveurs laitiers, qui se permet de polluer, qui se permet de ne pas publier ses comptes. Eh bien, il faut à un moment donné, comme vis-à-vis de l'agriculture la plus industrielle, il faut que l'État reprenne la main. Ça tombe bien, c'est une demande des citoyennes et des citoyens. Ça tombe bien. Il y a une explosion de demandes pour les circuits courts, pour une agriculture de qualité. On pourrait installer des près de 200 000 jeunes en agriculture changer de modèle. Mais c'est le modèle que nous portons.
Celui c'est de le modèle que nous portons. Lorsque vous regardez la réforme de la PAC qui vient d'être adoptée par les eurodéputés,
c'est dramatique.
Elle est dramatique, mais malgré tout, elle fournit le cadre dans lequel nous allons voir évoluer l'agriculture dans les années qui viennent.
Monsieur
Badou, êtes au Parlement européen.
Monsieur Badou, depuis 1962, nous avons la politique agricole commune. Nous avons tous les ans près de 9 à 10 milliards d'euros d'argent public européen pour financer l'agriculture française. En 20 ans, on a perdu la moitié de nos paysans.
Et les obligations environnementales ?
On a un suicide tous les jours ou tous les deux jours. On a une précarisation très forte de nos paysans à coût de milliards d'euros. Il va peut-être falloir quand même, à un moment donné, que l'argent public, c'est ce que nous avons défendu dans cette réforme de la PAC, aille vers les paysans qui respectent l'environnement, qui ont des revenus décents, qui respectent les consommateurs, qui aménagent...
Pour une autre fois.
Non, parce qu'on va continuer à se battre.
Oui, je vous dis, ce sera
on va continuer à se battre, parce qu'il n'est pas acceptable qu'on mette autant d'argent public dans un tel fiasco environnemental et social. On ne défend plus les paysans dans notre pays.
Il nous reste 3 minutes.
Les premiers pas de Barbara Pompili, vous les jugez comment ? Elle est trop conciliante, elle fait ce qu'elle peut, ou vous la plaignez ?
Yannick Jadot.
C'est Emmanuel Macron qui décide. Il décidait quand c'était Nicolas Hulot, il décide quand c'est Barbara Pompili. Je pense que c'est pas Barbara Pompili qui est venue voir Emmanuel Macron en disant « Et si on réintroduisait les néonicotinoïdes ? Et si on rompait tous les engagements que vous avez pris sur le glyphosate ?» Je pense qu'elle fait ce qu'elle peut. Je constate malheureusement que sur la question de l'écologie, de la protection de l'environnement, ce sera un quinquennat perdu, ce qui est dramatique. Tous les scientifiques disent que sur le climat, sur la biodiversité, nous n'avons plus que quelques années pour éviter le chaos. Et ben, le quinquennat d'Emmanuel Macron sera un quinquennat perdu pour l'écologie et pour tous les emplois.
Perdu ou catastrophique?
Est-ce que vous comprenez que l'impact de la crise économique incite le gouvernement parfois à abandonner ou à atténuer certaines mesures?
Non, c'est inacceptable.
Pour vous, c'est inacceptable?
Mais franchement, on a 10 millions de baisses d'impôts de production par an dans notre pays pour les entreprises. D'accord ? On va baisser les impôts d'Amazon qui a gagné beaucoup d'argent et sans discriminer positivement les libraires qui sont en quasi-faillite et qui sont tués par Amazon. C'est totalement absurde. 90 milliards du CICE. Pas d'emploi, pas d'investissement. Et on continue dans cette même enfermement idéologique. Investir sur la rénovation thermique des logements, investir sur les transports collectifs. J'ai proposé, et je conclurai là-dessus, 30 milliards de plans de relance, comme en Allemagne, pour les populations sous le revenu médian, en démarrant à 2000 euros par personne sous le seuil de pauvreté, mais avec des chèques alimentaires, le bio, les circuits courts, des chèques transport collectif, des chèques énergie, des chèques logement,
oui,
pour à la fois faire de la justice sociale et favoriser la relocalisation de l'économie autour de conditions sociales et d'ancrage territorial de nos entreprises.
Est-ce qu'il faut abandonner l'idée de voir aboutir le référendum pour les animaux ?
Écoutez, j'ai l'impression que là-dessus, le gouvernement continue d'être totalement manipulé par l'élevage industriel, comme il est manipulé par la chasse, comme il est manipulé par les pesticides ou par le nucléaire. Je pense que nous ne verrons pas la lumière au bout du tunnel, malheureusement, pendant ce quinquennat sur ces sujets-là.
Ce sera le mot de la fin. Merci Yannick Jadot. C'est pas un mot souriant, mais en tout cas, c'est un mot qui conclut cette émission et qui prend évidemment la mesure de tous les enjeux auxquels nous devons faire face. Bon dimanche. Merci d'avoir été l'invité. Merci. De questions politiques. Merci à toutes les trois. Karine, à demain matin, puisqu'on se retrouvera pour le 7-9 d'Inter. Merci à Alexandre Gilardi et à l'équipe technique de Questions Paul. On vous retrouve évidemment dimanche prochain.